Silcast présente l'analyse longue. Thème du jour, philosophie et éthique de la tech. Avec Nia et Clara, bonne écoute.
Aujourd'hui, on prend le temps sur quatre textes qui, mis bout à bout, dessinent une question. Qu'est-ce que les outils techniques font à nos catégories morales et épistémiques? On va commencer par un texte assez frontal du Grand Continent sur la techno-oligarchie, puis un essai d'AOC qui relie Goffman à l'âge de l'iPhone, ensuite la recension par Reactor du dernier livre de Se Ting Wien sur les métriques, et on finira avec Quanta sur ce que Gödel veut vraiment dire, presque un siècle après.
La thèse transversale, si je devais la formuler, ce serait « À chaque fois qu'on encode formellement quelque chose, le politique, le social, la performance, la vérité mathématique, il reste un résidu, et ce résidu est précisément ce qui compte. » Quatre angles différents pour la même intuition.
Commençons par Chekhovtsov dans Le Grand Continent. Son argument central, c'est que parler de technofascisme est une erreur de catégorie. Le fascisme historique, aussi monstrueux soit-il, glorifiait un collectif, une nation, une race conçue organiquement. La techno-oligarchie, elle, abolit le collectif comme principe. Son critère de sélection est purement fonctionnel, économique, individualiste. Et c'est en ça qu'il la juge théoriquement plus radicale.
Je veux reformuler son argument avant de l'évaluer, parce qu'il est subtil. Il ne dit pas que la techno-oligarchie a tué plus de gens que le fascisme. Elle n'a pas ce bilan, évidemment. Il dit que sa logique interne, si on la déroule, mène à une configuration que même le fascisme ne pouvait pas atteindre techniquement. L'anti-humanisme fasciste excluait certains humains du collectif humain. L'anti-humanisme techno-oligarchique tend à intégrer le collectif lui-même en humanisme politique.
Et c'est là que ça résonne avec ce que les gens de l'AI Safety appellent depuis longtemps la concentration extrême du pouvoir. Tu n'as plus besoin d'une mobilisation de masse, d'un parti, d'une rue, tu as besoin d'infrastructures, de modèles, de capital. Le sujet politique disparaît au profit de l'opérateur technique.
Ce qui me semble robuste dans son texte, c'est qu'il refuse l'analogie facile. Beaucoup de commentateurs ont tendance à recycler le mot fascisme parce qu'il est disponible et qu'il choque. Mais si tu utilises un mauvais cadre, tu organises une mauvaise résistance. Si tu combats la techno-oligarchie comme tu combattrais un mouvement de masse autoritaire, tu rates la cible. Là où je serais plus prudente, c'est sur la lecture monolithique des élites de la Silicon Valley. Elles ne forment pas un bloc idéologique homogène, même si une fraction visible adhère effectivement à des programmes autoritaires.
D'accord. Et il y a une question que le texte n'aborde pas frontalement. Est-ce que cette logique est intrinsèque à la technologie? Ou est-ce qu'elle est intrinsèque au capitalisme de plateforme particulier qui s'est imposé? Parce que la réponse change tout sur ce qu'on fait. Egan dans Permutation City imaginait des oligarchies de calcul, mais il imaginait aussi qu'on puisse les contester depuis l'intérieur de la même infrastructure.
Passons au deuxième texte, l'essai d'AOC sur Goffman et l'iPhone. L'auteur reprend la métaphore théâtrale de Goffman, la vie sociale comme scène, avec ses coulisses, sa grammaire des gestes, et il pose une question simple. Qu'est-ce qui se passe quand la scène devient l'écran?
Le mot juste qu'il utilise, c'est fragmentation. Le smartphone n'abolit pas la scène sociale. Il la démultiplie en micro-scènes portatives. Tu n'as plus une situation stable avec ses règles tacites. Tu as une succession de fenêtres qui s'ouvrent et se ferment au rythme des notifications. Et ce qui était implicite chez Goffman, la grammaire des distances, des regards, devient explicite, codé, mesurable.
Et c'est là que ça rejoint le premier article par une bande étrange. Quand l'interaction devient codée et mesurable, elle devient gouvernable par celui qui code et mesure. La grammaire sociale passe d'une négociation entre présent à une architecture imposée par l'interface. Black Mirror est cité pour la notation sociale, mais l'auteur dit en substance que la notation n'est pas l'extrême dystopique. Elle est la limite logique de ce qui existe déjà.
Ce qui me frappe, c'est la disparition des coulisses. Chez Goffman, l'arrière-scène, le moment où tu n'es plus en représentation, était structurellement nécessaire à la vie sociale. C'est là que tu te recomposes. Si l'écran t'accompagne en coulisses, si tu es filmable en permanence, le théâtre n'a plus d'envers. Et un théâtre sans coulisses, ce n'est plus du théâtre, c'est de la surveillance.
J'aurais une nuance. L'essai tend à supposer que la scène prénumérique était plus authentique. Goffman lui-même ne disait pas ça. Il disait que toute interaction est déjà une représentation. Le smartphone change l'architecture. Il n'introduit pas la performance. Ce qui change vraiment, c'est qui écrit le script et qui empoche les bénéfices de la performance.
Bonne reformulation. Ça nous amène naturellement au troisième texte, la recension par Reactor du livre de Tse Ting Nguyen, The Score. Nguyen est un philosophe du jeu et il propose une distinction que je trouve très éclairante. Striving play contre achievement play. Dans le striving play, tu utilises le score comme un outil pour créer une expérience désirable. La valeur est dans la lutte. Dans l'achievement play,
better if tu utilises l'expérience comme un moyen de le score. La valeur se déplace dans le chiffre.
Et son concept central, c'est value capture. Tes valeurs profondes, vagues, multidimensionnelles sont capturées par une métrique simple et lisible. Tu voulais apprendre, on te mesure sur des tests. Tu voulais grimper pour sentir ton corps. Tu finis par chasser des cotations. Le score devient l'objectif, et l'objectif réel s'efface.
Ce que Nguyen ajoute de subtil, c'est que les jeux, eux, fonctionnent très bien avec des scores simples. Précisément parce que dans un jeu, le score est arbitraire, et tout le monde le sait. C'est un outil esthétique. Le problème commence quand on importe la simplicité du score de jeu dans des domaines où les objectifs réels sont irréductiblement complexes. L'école, la santé, la recherche, le journalisme.
Et là, ça boucle avec les deux articles précédents. La techno-oligarchie gouverne par métriques. L'interface sociale impose ses scores, likes, vues, followers. Dans les deux cas, ce qui est capturé, c'est notre capacité collective à valoriser ce qui n'est pas mesurable. Nguyen donne le vocabulaire pour nommer ce qui se passe.
Son exemple des écoles américaines qui ont amélioré leur score au test en expulsant leurs élèves les plus faibles est l'illustration parfaite. Tu n'as pas triché techniquement. Tu as juste optimisé la métrique au détriment de la chose que la métrique était censée représenter. C'est le mécanisme de Goodhart appliqué à grande échelle.
Et c'est calibrable. On peut prédire à quel moment une métrique va se découpler de sa cible, quand elle devient l'objet explicite de l'optimisation, et quand les acteurs ont assez de marge pour la gamer sans toucher au fond. Ce sont deux conditions empiriques vérifiables. Ça donne presque un outil de diagnostic.
Finissons avec Conta sur Gödel, a related à vue et hors sujet par rapport au reste. À deuxième vue, est hors le socle.
Le théorème d'incomplétude dit en gros qu'aucun système formel suffisamment riche ne peut être à la fois complet et cohérent. Il y aura toujours des vérités vraies dans le système qui ne peuvent pas être démontrées depuis ces axiomes. L'article de Quanta réinterroge ce que ça veut dire, presque un siècle après, en interrogeant logicien, philosophe, un physicien.
Ce qui ressort de Raatikainen, c'est que le statut des vérités mathématiques cesse d'être uniforme. Tu as un noyau de quasi-certitude et une périphérie d'hypothèses progressivement plus incertaines. Ajoute un axiome, certaines propositions deviennent vraies, ajoute l'axiome contraire, elles deviennent fausses. La vérité devient contingente à des choix.
Et c'est exactement le lien avec les trois autres articles, si on accepte de transposer. Chaque fois que la société se donne un système formel, une métrique, une interface, un cadre de gouvernance, elle fait des choix d'axiomes. Ces choix déterminent ce qui est démontrable, et donc ce qui est visible, valorisable, gouvernable. Et il restera toujours des vérités vraies qui échappent au système. Le résidu n'est pas un bug, c'est un théorème.
La tentation techno-oligarchique, si on suit Chekhov-Tsov, c'est précisément de croire qu'on peut clôturer le système, que l'optimisation globale est possible. Gödel dit non, pas même en arithmétique, encore moins en société.
Je nuancerai. Gödel parle de système formel suffisamment expressif pour contenir l'arithmétique. L'extrapolation à la société est analogique, pas démonstrative. Mais l'analogie est productive, à condition qu'on la traite comme une intuition à tester, pas comme une preuve.
Si je résume ce qu'on retient transversalement, on a quatre auteurs qui, depuis des angles totalement différents, disent la même chose. Toute formalisation laisse un dehors. La question politique, sociale, éthique, c'est qui décide de la frontière et qui paye pour ce qu'on a mis dehors.
Là où on diverge un peu, je crois, c'est sur le diagnostic. Toi, tu lis ces textes comme une convergence vers une crise de civilisation. Moi, je les lis comme un outillage conceptuel qui se met enfin en place pour penser proprement quelque chose qu'on percevait confusément depuis 10 ans. Le vocabulaire arrive, ce qui est plutôt encourageant.
Optimisme conditionnel, comme tu.
Calibré.